Donc maintenant, vous avez vu comment avec la coloscopie on peut faire de la prévention, comment on fait du diagnostic, comment on peut faire de la thérapeutique. Et là maintenant, on va profiter de l'expérience donc de celui ou celle qui est au premier rang, qui est le médecin traitant, parce que c'est lui que le patient va aller voir quand il va avoir des ennuis et des signes, et c'est lui qui va penser à, éventuellement à faire faire cette coloscopie. C'est lui qui va suivre les patients, qui va leur donner des conseils. Donc, je donne la parole à Madame Bérard. Je mets le diaporama.
Alors, après tous ces exposés techniques et très précis,
Parlez bien dans le micro, Madame Bérard, s'il vous plaît.
après tous ces exposés bien techniques et très précis dus à la science du CHU, moi, je vais être beaucoup plus terre à terre et bien plus simple, parce que notre rôle est vraiment dans la prévention et dans l'écoute des gens. Donc, si on veut voir le rôle du généraliste, on peut commencer tout d'abord par la prévention, mais vraiment très très lointaine. C'est-à-dire qu'il est bon à l'heure actuelle de rééduquer l'alimentation de la population, puisqu'on a vu que c'était surtout une pathologie de pays riches, donc d'alimentation vraiment désaxée. Et l'on conseille surtout d'augmenter les fruits et légumes, et ça, on l'entend quand même bien souvent maintenant, environ 400 grammes par jour. Ça correspond à un légume ou une salade à chaque repas et un fruit à chaque repas, assorti d'un autre fruit au petit déjeuner ou au goûter. Ça représente bien ce que l'on peut manger et finalement, quand on l'énonce comme ça paraît pas très difficile. Augmenter les céréales, les fibres et le soja, préférer les viandes blanches et les poissons. Il faut donc diminuer les produits laitiers. Il y a une erreur, c'est les produits laitiers gras et non pas non gras. Le sucre, le sel, les graisses animales, la viande rouge, l'alcool, comme on a évoqué tout à l'heure, surtout la bière qui semble très néfaste dans ce cancer, et un rôle du tabac. Et augmenter l'exercice physique. Alors ces conseils-là, on les donne, nous on les donne beaucoup aux enfants maintenant et aux jeunes adolescents qui ont vraiment une alimentation qui ne correspond pas du tout et qui, s'ils continuent sur la voie qu'ils ont actuellement, va entraîner quand même une augmentation importante des problèmes. Alors pourquoi l'alimentation est un peu en panne en ce moment. On observe surtout qu'il y a une diminution donc des consommations des légumes et des fruits parce que dans les jeunes générations, les mamans travaillent. On pense qu'elles ont peu de temps pour préparer les repas et c'est souvent des pâtes le soir, une pizza, ça va vite quoi, des plats tout préparés. Et il y a des problèmes de stockage des produits frais dans les petits appartements. Donc on peut aisément leur conseiller de remplacer par des surgelés qui sont quand même bénéfiques, même si c'est moins bien que le produit frais acheté sur le marché le dimanche, et des produits de conserve. Et si l'on veut, on peut préférer le mode de cuisson vapeur en gros morceaux et sans peler, après avoir bien lavé les légumes et les fruits, mais sans les peler. En fait, on peut se demander si la différence d'incidence des cancers en fonction des populations est due à un problème génétique, certainement, mais ce dont on peut parler, c'est que, par exemple, en Chine, il y a moins de cancers colorectal, et on va nous répondre, bon, les Chinois ne sont pas faits comme nous, donc, et en fait, non, parce que quand les Chinois viennent habiter dans nos contrées, ils rattrapent très très vite le taux de cancer colorectal, puisqu'ils commencent à vivre de notre façon, un petit peu. Néfaste. au niveau du diagnostic, alors ça c'est surtout la prévention chez les jeunes mamans, les jeunes couples, les enfants. Comment après, dans les tranches d'âge supérieures, faire le diagnostic donc de cancer du côlon au niveau du médecin généraliste? Les signes évocateurs les plus fréquents dont on a déjà parlé sont effectivement le saignement par l'anus de sang noir. Quand c'est le cancer du côlon, puisque ce sang vient d'un niveau assez élevé dans le côlon. Il les met un certain temps à descendre, il est digéré en cours de route, donc vous savez que ça devient très vite noir et assez malodorant. Parfois, il peut y avoir aussi quand même émission de sang rouge. On appelle ça une rectorragie, c'est-à-dire une hémorragie par le rectum. C'est souvent peu abondant, ce sont des traces. On peut aussi repérer, lors d'un bilan systématique ou lors d'une fatigue, une anémie, c'est-à-dire une baisse dans le nombre des globules rouges et de l'hémoglobine, Et pour cela, moi, j'incite beaucoup les gens à faire les bilans de santé de la CPAM tous les 5 ans, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un patient, on ne peut quand même pas lui dire « Bon, allez, je vais vous faire le truc, le complet, la radio du poumon, l'électro, le machin. » Alors que, en fait, les bilans de santé tous les 5 ans sont d'excellents moyens de s'assurer que tout va bien ou de repérer, au contraire, un élément qui déraille un peu et après approfondir l'exploration de cette recherche. Donc, l'anémie, le manque de globules rouges, et ça, ça veut dire que la tumeur saigne. Qu'est-ce qui peut saigner chez un homme ou chez une femme ? Avant 50 ans chez une femme, il peut y avoir des règles hyperabondantes, notamment en périménopause. Donc ça, on sait si la femme saigne beaucoup, des règles qui durent 15 jours, vraiment abondantes. Là, on fait d'abord une recherche dans ce domaine-là. Si ça n'est pas le cas, c'est le côlon qui va être recherché et dépisté en premier. Et chez l'homme, ben, c'est forcément le côlon. Et puis, sur des signes aussi d'apparition récente et persistante, d'une constipation, puisque comme vous avez vu, la tumeur peut encercler et faire un étranglement au niveau du côlon, les selles ne passent plus, constipation d'apparition récente alors que les gens n'étaient pas constipés avant. Et à l'inverse, on peut avoir alternance constipation-diarrhée, parce que quand il y a cette constipation qui bloque, en amont, ça force pour passer, et tout d'un coup, il y a une débâcle. Et 2 jours après, paf, c'est rebouché, et voilà. Donc ça, en général, c'est douloureux. Quant au cancer du rectum, qui est donc la tumeur plus bas située dans le tube digestif, les rectoragies, c'est-à-dire l'émission de sang par le rectum, sont souvent donc de sang rouge, puisque la tumeur est basse, proche de la sortie, donc n'a pas le temps d'être digérée, le sang n'a pas le temps d'être digéré. Et attention, autant au niveau du cancer du côlon, le sang pouvait être intégré, mêlé dans les selles. Là, c'est plus souvent un sang rouge qui est donc sur les selles. Et à ne pas confondre et à ne pas faire passer sur le compte des hémorroïdes, puisqu'il y a des gens qui saignent de temps en temps depuis X années, on a un petit coup d'hémorroïde tous les 3 mois et c'est tout. Tandis que là, je vous parlerai d'un cas après un petit peu particulier dans ce domaine. Il peut y avoir aussi comme signe d'appel ce qu'on appelle, nous, en technique, le ténesme, c'est-à-dire une sensation douloureuse de plénitude du rectum. Les gens ont l'impression d'avoir le rectum plein, mais rectum plein, d'habitude, on a envie d'aller à la selle. On n'a pas forcément mal. Là, c'est souvent douloureux. Et il s'associe à ça des faux besoins. On a envie d'y aller, on ne fait rien. Ou au contraire, on y va et c'est que des glaires et des glaires sanglantes. Ça doit vraiment, vraiment vous faire parler et vous faire exposer ça à votre généraliste. Et nous, en ayant ces points d'appel, on doit faire le toucher rectal parce que là, la tumeur est basse et on peut la joindre au toucher rectal. Et là, on la sent très, très bien et le diagnostic est fait dans l'instant. Alors, je vous ai mis 2 diapos pour vous faire un petit peu flasher. Si on veut comparer 2 fléaux qui touchent la France énormément, c'est donc le cancer colorectal et les accidents de la route. Je vais très rapidement. On a 16 à 17 000 décès par cancer colorectal et on est rebaissé à environ 5 000 décès par an au niveau des accidents de la route. Donc on a fait beaucoup de progrès sur les accidents de la route. On voudrait en faire autant sur le cancer colorectal. Et la dernière diapo, c'est en termes de décès. Le cancer colorectal, c'est en gros un avion de 300 places qui s'écrase par semaine. Et ça, je trouve que ça frappe énormément. Et pour finir, je voudrais donc vous parler de 2 cas que j'ai eus dans la quinzaine dernière. C'est le premier cas, c'est une patiente qui a moins de 50 ans, qui a un excellent état général, qui ne consulte jamais. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ou 12 ans, vraiment très longtemps. Et elle est arrivée en disant « je reviens de vacances, j'ai eu des hémorroïdes, ça m'a beaucoup gênée ». Et en fait, à l'examen plus poussé, il y a une tumeur de la marge anale qui est déjà très avancée, qu'elle avait pris pour un problème d'hémorroïdes et dont elle avait conscience depuis plus d'un an. Donc là, c'est vrai qu'il y a un retard au diagnostic qui est embêtant. Donc un signe comme ça ne doit pas faire banaliser la chose. Et le deuxième cas dont j'ai eu connaissance dimanche pour le week-end, c'est d'une amie qui est chef de service dans un hôpital parisien qui allait très bien et qui, il y a 2 ans, a eu un terrible mal au ventre un jour. Et comme elle était en service à l'hôpital, il y en a un qui lui a dit, bah, viens donc, on va regarder. On va... Un cancer de colique, très évolué déjà, et elle en est à la carcinose péritonéale en 2 ans. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention, et les moindres signes doivent au moins en faire parler. Si on n'en parle pour rien, mais tant pis. Au moins, on en a parlé, on recherche, et c'est ça notre rôle, c'est de rechercher au moindre signe. Mais il faut que vous en parliez, il faut qu'on pose des questions. Il y a une autre chose que je voulais dire absolument, dont j'avais parlé à Michel Cartier, c'est que nous, quand on rentre dans l'ordinateur votre dossier, si on vous connaît depuis un certain temps, avez-vous des antécédents personnels, avez-vous des antécédents familiaux? Non, toc, toc, on descend. Et puis on revoit les gens régulièrement, tout va bien, il y a un petit peu de cholestérol, un petit peu. Mais si la personne, entre-temps, oublie de vous dire que son père, qui habite Paris et que vous ne connaissez pas, fait un cancer du côlon, eh ben on passe à côté des conséquences qu'on peut avoir sur cette personne. Donc nous, notre rôle, c'est tous les 4-5 ans de reprendre les antécédents personnels familiaux pour voir s'il n'y a pas eu des faits nouveaux dans la famille, puisque ça peut complètement changer notre attitude. Voilà.
Merci beaucoup. Donc c'est très important ce qu'a dit Mme Bérard. Et vous voyez que donc c'est le médecin traitant qui est au premier rang. Et c'est de lui que va dépendre tout, parce que s'il ne pense pas à demander les examens, eh ben, c'est difficile. Donc, très important, et en plus de garder le contact avec. Donc maintenant, on avance, donc on n'est plus dans la prévention, on n'est plus là, on a malheureusement un cancer. Ce cancer a été diagnostiqué sur des signes, on lui a fait une coloscopie, on a fait des biopsies, et on nous répond cancer. Donc là, eh bien, il va falloir envisager un traitement. Mais ce qui est important pour en discuter, c'est que maintenant, ce n'est pas le chirurgien qui va voir le patient, qui va décider tout seul du traitement. C'est fini, ça. Maintenant, le cas des patients va être discuté au sein de ce qu'on appelle les unités, les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires, où il va y avoir des médecins, où il va y avoir des oncologues médicaux, où il va y avoir des chirurgiens, des radiologues, des médecins anatomopathologistes, et de cette discussion va être, si vous voulez, donner au patient, en définitive, le chemin thérapeutique qu'on va lui donner, et éventuellement on en parlera après, au sein, en fait, de consultation d'annonce. Donc, pour que le chirurgien, en l'occurrence le professeur Richer, opère, eh bien, on ne se contente pas de ça, puisque à un moment donné, maintenant, il va falloir savoir le degré d'extension de notre cancer. Et on va faire un bilan d'extension, je vais passer rapidement. Donc, eh bien, on revient sur ce que je vous avais dit. Il faut savoir ce qu'il y a. Et en définitive, au départ, ben maintenant, avec l'examen tomodensitométrique, ben, pour voir tout ce qui est métastase, en particulier donc hépatique, pulmonaire.
Monsieur Catherine. L'examen. Oui.
Scanner.
Ça, j'avais bien entendu avant que vous annonciez.
C'est la même chose.
Ah oui, mais scanner, pardon. C'est moi qui dérape. Donc le scanner qui va permettre de voir donc les métastases, les carcinoses, et puis éventuellement des marqueurs qui serviront à suivre le patient, mais on vous en parlera. Et dans le cadre du cancer du rectum, ce qu'on appelle l'écho-endoscopie, qui est en fait l'équivalent, si vous voulez, d'un coloscope, au bout duquel on a mis un échographe, vous savez comment on fait les échographies hépatiques, et bien il y a un échographe qui envoie des échos, et ça permet de voir les tumeurs et de voir le niveau des tumeurs et le degré d'envahissement. Donc là, eh bien, c'est ce que je vous avais présenté et on peut traiter tout ça. Donc maintenant, si vous voulez, ben Jean-Pierre Richer va nous parler du traitement de ces cancers colorectaux et des différentes possibilités que l'on a. Et en particulier, vous verrez aussi que même quand les cancers sont avancés, là, on a quelques moyens de rendre les patients libres de la maladie.
Saint-Côme et Saint-Damien sont les saints protecteurs de notre université. Ce sont des chirurgiens. Alors vous avez vu que le cancer colorectal, c'est plus comme autrefois. Hein. Et maintenant, le malade est devenu l'interlocuteur et un participant complet dans son parcours qui va être personnalisé. Comme M. Cartier vous l'a dit, la chirurgie est bien au centre du traitement, mais c'est une approche multidisciplinaire qui est établi sur des protocoles que l'on ne choisit pas nous, mais sur des protocoles nationaux, internationaux, avec des techniques qui sont évaluées, standardisées pour une chirurgie de moins en moins agressive, une évaluation des pratiques, avec la possibilité de centres de recours et de centres référents. Cette approche multidisciplinaire est essentielle et va aboutir, lorsqu'il y a une décision médicale prise par tous les interlocuteurs concernés par le dossier, à une consultation d'annonce avec des infirmières spécialisées qui vont reprendre avec le patient l'ensemble du parcours. Alors, lorsqu'on est amené à opérer un cancer du côlon droit, on vous l'a déjà dit, il faut retirer la tumeur en elle-même et l'organe qui porte la tumeur, mais également les structures vasculaires pour avoir les ganglions. Ce n'est pas seulement un geste curateur, c'est-à-dire pour diminuer la masse tumorale, mais c'est également un geste pronostique. Car la chirurgie, comme la radiothérapie également, c'est un traitement local. Tandis que s'il y a un essaimage des cellules cancéreuses, il va falloir avoir recours à un traitement général. C'est le cas de la chimiothérapie qui va traiter les cellules dans tout l'organisme. Donc cette chirurgie s'accompagne souvent d'un rétablissement de la continuité digestive. C'est la même chose pour le côlon gauche et on adapte bien évidemment notre geste d'exérèse à la topographie de la tumeur et on a différentes techniques et à chaque fois, on charge dans la résection, dans la pièce d'exérèse, les ganglions tributaires du territoire anatomique de la tumeur, avec un rétablissement.
L'exérèse, c'est l'ablation,
c'est la résection.
Oui, donner des termes peut-être un peu plus faciles pour qu'on comprenne plus.
Alors, l'ablation de la tumeur, si vous voulez. C'est l'ablation de la tumeur et de la partie de l'organe qui concerne la tumeur. Alors, ces tumeurs sont analysées par nos anatomopathologistes et la classification sera faite au terme de tout cela par l'importance de l'infiltration de la tumeur dans la paroi de l'intestin, l'existence de ganglions atteints, N comme note, c'est anglo-saxon, l'existence de métastases et à partir de là, on va décider ou non de réaliser une chimiothérapie qui peut être proposée avec de nouvelles molécules actuellement. Lorsqu'il s'agit d'un cancer du rectum, maintenant, si la lésion reste limitée à la paroi colique, à la paroi rectale, pardon, sans atteinte ganglionnaire, on va pouvoir envisager une chirurgie première. Si par contre l'atteinte pariétale est très importante, qu'il existe des ganglions à proximité de la tumeur rectale, on réalise un traitement par radiothérapie avant la chirurgie pour détruire tout ce qui est très loin de la tumeur primitive, comme nous sommes dans une excavation pelvienne qui est étroite, et espérer que la chirurgie éradique complètement la tumeur et le cancer. Alors bien souvent, on essaie de rétablir la continuité digestive, c'est-à-dire de rabouter l'intestin d'amont avec ce qui reste en aval, c'est-à-dire l'anus, et un peu de rectum parfois. C'est possible pour un grand nombre de tumeurs, mais pas toujours, si la tumeur est très proche de l'anus, avec des limites qui sont constamment discutées au niveau des différents chirurgiens. Parfois, malheureusement, on ne peut pas, et on est contraint de faire un abouchement du côlon d'amont à la peau, comme le montre la photo de droite. C'est ce qu'on appelle une stomie, et un certain nombre de nos infirmières se sont spécialisées pour définir le meilleur emplacement de la stomie, ce qu'on appelle les stomathérapeutes, et pour les suivre, les adapter, les appareiller et aider le patient dans la gestion technique, mais également psychologique, de ses stomies. Alors là encore, on va tout analyser selon la classification TNM qui est complètement internationale. Et une chimiothérapie peut être proposée en cas d'atteinte ganglionnaire. Bien évidemment, si la stadification préopératoire était imparfaite, on peut rattraper la radiothérapie qui n'a pas été faite en préopératoire, en postopératoire. Alors bien évidemment, cette chirurgie, qu'elle soit colique ou rectale, peut être faite par voie célioscopique, et vous connaissez tous, maintenant c'est bien répandu, le côté positif, mais ce sont les mêmes gestes qui sont réalisés par voie célioscopique que par voie ouverte. Lorsqu'il existe des métastases, autrefois on disait, bon, bah c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est fini maintenant. La récidive est souvent accessible à une chirurgie, et la chirurgie des métastases à tous les niveaux est possible. Et puis, quand on ne peut pas chirurgicalement, il existe des possibilités autres, telles que des chimiothérapies modernes ou rentrer dans des essais thérapeutiques. Et vous voyez qu'on peut réaliser de la chirurgie hépatique avec une mortalité et une morbidité, c'est-à-dire des complications qui peuvent être très faibles. Et on réalise des échographies péropératoires qui permettent de s'assurer qu'il n'existe pas des petites métastases qui nous échappent. On peut utiliser également la destruction par une aiguille au bout de laquelle s'ouvrent des baleines de parapluie. Cette aiguille entraîne une radiofréquence qui détruit complètement la tumeur, alors soit à travers la paroi, soit de façon chirurgicale, lorsqu'à travers la paroi, sans ouverture, c'est impossible. Et cette radiofréquence, elle peut être utilisée pour d'autres localisations, lorsque les métastases sont en nombre limité, bien évidemment. Alors, après le traitement, qui peut tenir compte de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, il faut suivre le malade. Alors, bien évidemment, ne sont suivis que les patients qui peuvent bénéficier de ce suivi. Bien évidemment par les spécialistes, mais également par le médecin généraliste. Et maintenant, il y aura un dossier partagé, éventuellement informatisé. Par des examens cliniques, par des examens radiologiques, par des examens biologiques et notamment dans des marqueurs tumoraux qui n'ont aucun intérêt pour le diagnostic, mais qui peuvent en avoir pour le suivi, pour voir une réévolution de la maladie. Alors le rythme est discuté, c'est en tout cas pendant 5 ans après le traitement du cancer, tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois après, mais à chaque réunion entre nous, on rediscute du sujet. Et puis il y a quelques perspectives d'avenir, alors non seulement pour la formation des jeunes, mais également peut-être dans de nombreuses années, en amélioration des techniques chirurgicales. Et voyez qu'on a quand même un cocktail thérapeutique assez intéressant pour tous nos patients. Et ce cocktail doit être présenté aux patients en consultation d'annonce et à chaque étape du diagnostic et de la thérapeutique.
Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, si vous voulez, on a terminé. J'espère qu'on n'a pas été trop compliqué parce qu'on est toujours un peu dans les nuages. Et avant d'entamer la discussion, j'ai complètement oublié tout à l'heure de vous dire que nous avions ici deux infirmières de notre service qui ont une spécialité. Donc il y a Madame Chéniaud qui est stomathérapeute dont vous a parlé Jean-Pierre qui était donc la prise en charge, quelle qu'elle soit, des stomies, c'est-à-dire les gens donc, qui n'ont plus d'anus et qui sont appareillés par poche. Elle pourra nous donner son expérience. Et à côté, vous avez Madame Geoffroy qui est une infirmière de consultation et qui, elles, participent à la consultation d'annonce, donc elles pourront répondre également aux questions. En tout cas, on vous remercie de votre attention.